Tout d'abord, faisons un point sur l'enquête. Le collaborateur de Raphaël Arnaud, député insoumis, cofondateur de la Jeune Garde, a passé sa première nuit en prison. Comme les 5 autres qui ont été mis en examen dans la mort de Quentin, un 7e individu a été placé sous contrôle judiciaire. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé, la Jeune Garde et la France insoumise. Ce qui fait dire à Gérald Darmanin qu'aujourd'hui, c'est plus possible de voter insoumis.
Ce coup de votons LFI pour faire barrage. Ah, voilà. Je pense malheureusement que les deux extrêmes se rejoignent. Je ne mettrai jamais le bulletin LFI dans l'urne.
Je me souviens d'un Gabriel Attal lors des dernières législatives qui expliquait qu'au second tour, il fallait voter LFI plutôt que RN, ou alors qu'on pouvait s'abstenir, mais il avait fait un choix. Alors est-ce que ce choix tient toujours, ou est-ce qu'aujourd'hui, comme le disent certains même au Parti Socialiste, LFI, RN, c'est la peste, c'est le choléra, ou est-ce qu'il faut au contraire faire un choix et surtout faire barrage à la France insoumise? C'est ce que dit par exemple Bruno Retailleau. Emmanuel de Villiers.
Oui, il y a une différence de nature entre la France insoumise et le Rassemblement national. C'est ce qu'a dit Retailleau en parlant de cordon sanitaire à la défaveur de LFI, car, pour reprendre ses termes et les compléter, la France insoumise est un parti révolutionnaire, insurrectionnel, et je compléterai en disant séditieux. C'est-à-dire que derrière la drague électorale, il y a une volonté de ne pas respecter la démocratie. Il y a une volonté séditieuse. Elle est déjà ancienne. Le 21 septembre 2010, le président du parti Mélenchon disait, il faut quand même s'en souvenir, je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
Et les filles n'existaient pas en 2010, mais c'est pas grave, tu peux
continuer. Oui, mais c'est la même filiation.
C'est parti de gauche.
C'est
un peu précis quand même.
Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. C'est donc insurrectionnel, c'est donc un parti qui ne veut pas respecter la vie sociale normale française, et les Français sont pas prêts, ils ont leur maison, ils ont leur vie, leur famille. Et les révolutionnaires, alors sauf peut-être en Reban, mon cher Bruno, comme toi, mais ils ne sont pas majoritaires. Donc il faut maintenant que LFI soit marginalisé. Je rappellerai que Mélenchon en 2012 a fait 11%, 2017 plus de 19% et 2022 22%. Ils vont s'enfermer en ne voulant pas désavouer Monsieur Arnaud, parce que Monsieur Arnaud, il est au cœur de leur base militante. Ils vont faire preuve d'une fidélité politique qui va donc leur coûter très cher. Et moi, je pense que M. Mélenchon sera en dessous des 10% en 2027.
Ça semble effectivement incompréhensible que Jean-Luc Mélenchon ne coupe pas les liens avec Raphaël Arnaud, le député insoumis. Parce que c'est lui qui l'a mis en avant. Il avait mis en avant la Jeune Garde. Mais aujourd'hui, certains lui disent il faut faire le ménage. Il est accroché à sa stratégie. J'entendais M. Delogu hier, le candidat LFI de Marseille, dire que la Jeune Garde, c'était des types formidables, pas du tout violents. Enfin bon, on est sur une autre dimension, alors que les faits démontrent le contraire. Cette stratégie jusqu'au boutiste, est-ce que justement ça a pas poussé les Français à avoir de plus en plus peur que les insoumis arrivent au pouvoir, Joël Dagosséry?
Non mais déjà, faut pas mentir, ça a pas commencé avec la mort de Quentin. Ce que vient de dire Monsieur Retailleau, il le pensait déjà, il le disait déjà avant ces événements-là. Donc dire que c'est la stratégie de Mélenchon face au député Raphaël Arnaud qui engendre cela, je n'y crois pas. À titre personnel, si on parle de vote. C'est-à-dire que si je me retrouve dans une élection, peut-être un second tour, imaginons un second tour, où j'ai LFI et RN. Moi, j'ai déjà dit que cette année, les prochaines élections, je ne voterai que par adhésion. Donc, je ne me sens pas concernée par une telle affiche, honnêtement. Et je crois que les Français, s'ils veulent de l'extrême droite, bah, qu'il l'ait leur extrême droite. Donc, moi, je ne participerai pas à un blocage qui va en dehors de d'idées auxquelles j'adhère. Déjà, de un. Deuxièmement, considérant la peur que je peux avoir, le trait d'égal, comme dit Monsieur Retailleau, entre LFI et RN, et il dit même pas égal, il dit pire. Pour LFI.
Bruno Retailleau dit que les insoumis, c'est pire que le RN.
Eh ben moi, non. Je ne considère pas que LFI est pire que le RN. Je considère que la peste et le choléra, c'est le RN. Et pas peste d'un côté et choléra d'un autre. Je ne partage absolument pas les idées d'LFI. Et comme je dis, je ne voterai pas. Mais je ne considère pas qu'ils seront à égalité. Je veux juste rappeler les chiffres des violences attribuées à l'extrême droite sur ces 10 dernières années. Nous avons 10 à 15 homicides sur ces 10 dernières années. attribué officiellement. Non. Non, parce qu'on parlait aussi de l'ultra-gauche. Attention, je veux dire que nous avons 10 à 15 homicides attribués à l'extrême droite sur ces 10 dernières années. Sur 2025-2026, on a, la dernière fois que vous me disiez, non, c'était avant-hier. Si, nous avons Ismaël, Hicham, Frédérico. Nous avons 500 à 600 blessés attribué à l'extrême droite sur ces 10. Nous avons ça. Non, vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer ou sinon je viens chercher une vache et jamais là et elle parlera à ma place.
On a le droit de corriger si c'est faux.
Non, c'est pas faux. C'est pas faux.
C'est un crime raciste. Mais c'est pas forcément attribué à l'extrême droite.
D'accord. Donc nous avons 500 à 600 blessés sur ces 10 dernières années attribués à l'extrême droite à cause de rixes. Tu veux me laisser finir. À cause de rixes de rue, d'agressions racistes et enfin les derniers chiffres de la DGSI, nous avons plus d'une dizaine d'attentats déjoués. Ce sont les chiffres de la DGSI, déjoués à l'extrême droite. D'accord. Et tout ça, tout ça n'est pas attribué au RN. Comme par hasard, quand c'est l'extrême droite, le RN n'est absolument pas. Soupçonne pas le RN.
S'il n'y a pas de lien.
Avec Quentin,
il y a un lien, il y a un lien direct avec
LFI.
Ce sont des collaborateurs de Raphaël Arnaud qui ont participé à sa mort.
Ce que je veux dire, quand on me parle de peur, et que moi je pense violence, quand je regarde ces chiffres, moi je dis que si je devais avoir peur, ils sont de ce côté-là. Donc voilà.
Bruno Poncet.
Alors moi, grâce à Emmanuel De Villiers, j'ai certainement basculé LFI, moi qui l'ai jamais été et qui ai toujours refusé de l'être. Parce que quand je t'entends dire n'importe quoi comme ça, ça me donne envie d'être chez eux, tu vois. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu vois, t'es pas un repoussoir pour LFI. En fait, t'es quasiment quelqu'un qui a été tu vas signer des contrats grâce à eux. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que, comme je l'avais dit pour l'affaire Quatennens, moi, je pense que c'est une faute politique de pas avoir demandé à Raphaël Arnaud de démissionner. Comme ils ont dû demander à Quatennens tout de suite quand ça avait été acté qu'il avait harcelé sa femme et tapé sa femme, ils auraient dû dire tu te déconnectes toi-même, tu démissionnes. Ça fait garder un minimum de dignité même quand t'en as pas, avoir tapé ta femme. Et Raphaël Arnaud, je pense, c'est une faute politique de le laisser parce qu'aujourd'hui Raphaël Arnaud, peut-être déjà par solidarité et puis par lien d'intégrité, mais en fait je pense que c'est une erreur politique parce que une fois que t'aurais coupé Raphaël Arnaud de ton dispositif LFI, eh ben après tu pouvais dire écoutez, nous quand il y a un problème, laisse-moi, je t'ai pas interrompu, reste là-bas tranquille, après on verra. Moi je pense que c'est une erreur politique parce qu'en fait en coupant Raphaël Arnaud en disant écoute tu démissionnes, après de dire regardez quand nous on a un problème, on n'est pas comme les autres, on ne garde pas des ministres Dati qui sont à l'heure actuelle à l'aube d'un procès, on ne garde pas des ministres qui sont accusés de harcèlement sexuel, on ne garde pas des ministres qui sont accusés d'un tas de trucs, nous on coupe tout de suite. Or en ne le faisant pas, eh ben ils se mettent au même niveau que les autres et évidemment aujourd'hui la Lali est sur eux et ça va pas s'arrêter. Et moi je pense qu'aujourd'hui comparer extrême droite et extrême gauche, c'est pas compliqué pour Retailleau. Il vient d'avoir sa candidate à Marseille nous expliquer que sa devise c'est travail, famille, patrie.
Moi je salue l'élan d'engagement en faveur de la France insoumise de notre ami Bruno Poncet parce qu'ils vont perdre tellement d'électeurs qu'il faut effectivement qu'ils en trouvent.
Émilie est avec nous au 32-16. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bienvenue dans les Grandes Gueules, vous nous appelez du nord de la France. Alors est-ce qu'aujourd'hui on a plus peur de la France insoumise que du Rassemblement National ?
Moi personnellement oui.
Pourquoi ?
Alors parce que quand admettons vous regardez les débats parlementaires, l'Assemblée nationale, moi c'est le chaos en fait, LFI. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en train de hurler, qu'ils n'écoutent personne. Ils ont parfois un discours qui est décousu. Aujourd'hui, je pense que l'extrême droite a bien travaillé hein, et a polissé son image. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la majorité des Français, moi, je suis désolée, LFI, ça incarne l'anarchie, en fait.
C'est-à-dire que le paradoxe, c'était...
Le bazar, vous voyez, tous les gens comme moi qui respectent les règles. Moi, j'ai presque 50 ans. Je fais tout bien comme on me demande. Ça coche pas les cases, quoi.
Ce qui est le paradoxe, Émilie, c'est qu'au moment où Marine Le Pen a tenté de dédiaboliser son parti, Jean-Luc Mélenchon, lui, l'a diabolisé. C'est deux stratégies différentes. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, d'un côté, on essaie de dédiaboliser pour essayer enfin d'arriver au pouvoir après plusieurs échecs. Et de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, théorise au contraire le fait qu'il faut être un peu un diable à gauche, très en colère, pour justement arriver au pouvoir. C'est vrai qu'il y a deux stratégies.
Ça fonctionne pas, parce que nous,
ça fonctionne plus.
Non, ça fonctionne pas. Parce que
bah, ça fait peur peut-être aussi.
Nous, puis nous, ce qu'on a envie, franchement, le français moyen qui travaille, qui élève ses gamins.
Voilà.
Voilà, le français moyen.
Il n'a pas envie qu'on lui renverse la table comme ça, ouais.
Ben voilà, il en a marre. Je veux dire, vous allumez la télé, vous regardez les actualités. Il n'y a rien de sympa.
Mais attendez.
Il n'y a rien qui va. Je veux dire, et en plus, vous voyez, du moins, c'est du bordel ajouté au bordel.
Non, mais Émilie, excusez-moi.
Donné, oui,
mais
on a envie de calme. Et puis, alors, moi, je me dis aussi, hein, moi, l'extrême droite, je me dis qu'il y aura forcément des contre-pouvoirs. Vous voyez, il y aura forcément. Moi, l'extrême gauche, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut canaliser l'extrême gauche. Même s'ils ont des bonnes idées, on ne les écoute pas parce que de toute façon. Et puis, ils n'acceptent pas le débat de toute façon. Je veux dire, vous ne pouvez pas discuter. Ils ont des idées tellement arrêtées.
C'est vrai, vous ne pouvez pas discuter avec
eux.
C'est
un
Émilie, on n'a pas dû assister aux mêmes événements. Parce que quand vous me dites que LFI est anarchiste et c'est le chaos, excusez-moi, nous avons assisté à la dissolution de l'Assemblée nationale où LFI est le groupe. Composé avec LFI, le PS, etc., est arrivé en tête de ces élections.
Sans les gagner.
Sans gagner, mais ils sont arrivés.
Personne n'a gagné.
Mais c'est incroyable. Ils sont arrivés en tête de ces élections. J'ai pas dit qu'ils avaient
oui,
gagné.
Mais grâce à l'alliance
alors,
électorale.
Oui, très bien.
Mange,
oui, mais oui. Voilà, ils sont arrivés
oui,
en tête. Malgré ça, on leur a entre guillemets enlevé cette victoire sous le nez, c'est-à-dire qu'on a nommé un premier ministre. Oui, d'accord. On a nommé un premier ministre qui n'avait rien à voir avec le groupe arrivé en tête, et ils sont partis s'asseoir sagement sur les bancs de l'Assemblée. Si, jusqu'à aujourd'hui. Mais attends, mais c'est incroyable.
Il y a eu une vague, je ne sais pas combien de motions de censure.
Ils sont partis, oui, c'est le jeu démocratique. Donc, Émilie vient de dire qu'ils n'étaient pas. Ils étaient antidémocratiques. Donc, ils font le jeu démocratique. Ils sont partis s'asseoir sagement sur les bancs de l'Assemblée.
Ils ont.
Mais incroyable. Mais c'est sage.
Donc, alors, il veut dire que la notion de tout conflictualiser, c'est insupportable et ça fait peur.
Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas...
Et ça, c'est la stratégie de Mélenchon.
Ils n'ont pas renversé la République.
Toute l'année.
Oui, mais ce que Émilie, elle ne dit pas qu'ils vont renverser la République, elle dit que le conflit permanent, elle-même, elle n'en peut plus.
On me parle d'anarchistes, excusez-moi. Ces gens-là sont arrivés en tête des élections.
Non, mais c'est
ils
vrai.
Sont partis.
C'était peut-être pas le mot à utiliser. Mais moi, c'est la bordélisation.
La bordélisation, en fait.
Et c'est comme ça tous les jours de l'année. Et on n'en peut plus. Je veux dire, vous travaillez, il y a du bordel partout. Plus personne ne respecte les règles. C'est pareil, moi, quand j'entends le permis de conduire, on veut l'assouplir. Mais non, parce que de toute façon, le français contourne toujours les règles. C'est pas possible.
C'est Olivier Truchot qui veut faire ça.
C'est le bien vivre ensemble. Et ça, franchement, il y en a marre. Il y en a marre.
Oui, vous avez
avec
l'extrême
droite, waouh.
Bah oui, mais
ça va être génial.
Mais c'est pas ça. Mais
elle a pas dit qu'elle souhaitait l'extrême droite au pouvoir. Elle dit qu'aujourd'hui, la façon de tout rendre, bordéliser en fait le débat, ça la fatigue.
Aujourd'hui, franchement, en tant que Français moyen, on a quel choix?
Bah pour l'instant, on ne sait pas.
Alors,
les élections
vous avez,
sont
pour moi, donc LFI qui représente la bordélisation continuelle, le conflit permanent.
22% des Français.
Ouais, le centre où de toute façon ils jouent leur place. Hein. Moi, je suis désolée, de la gauche jusqu'à la droite, on ne sait pas bien. De toute façon, ils jouent leur place. Hein. Tant qu'ils ont une place de ministre, tant qu'ils gardent leur mandat, tout va bien. Et puis après, vous avez l'extrême droite. Voilà les trois choix qui se présentent aux Français aujourd'hui. Hein. Donc on fait quoi? Franchement, moi je me dis, mais je vais me présenter aux prochaines élections avec... qu'est-ce que je vais bien pouvoir voter en fait? Parce qu'en plus, même les alliances...
Non, mais en fait, lisez les programmes, parce qu'après, on peut parler. Vous voyez ce que vous voyez à la télé, mais lisez les programmes. Après, c'est vrai que si vous avez raison, des fois, les programmes, ils sont écrits et personne ne les respecte. Ça, c'est autre chose.
Ah, bah oui, les belles promesses. Je veux dire, quand on écoute Emmanuel Macron en 2017, hein, il était plein de promesses. Regardez aujourd'hui.
Merci, Émilie. Peut-être parce qu'on attend trop des présidents aussi, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Merci, Émilie. On attend un sauveur, et puis forcément, ça n'existe pas. Pour donc, trois mois
l'anarchie,
après,
l'anarchie, c'est une bonne solution.
Non, je pense qu'il y a mieux que l'anarchie quand même, parce que l'anarchie, pardon, mais ça, c'est nulle part, ça a fonctionné.
On n'a pas essayé.
Moi, je me disais, heureusement. Hier, je réfléchissais.
Reste sur ton projet de fiche R.
Ce qui est incroyable, c'est que tout le monde est tellement à genoux devant l'extrême droite que tu te retrouves à défendre LFI.
Ouais, surtout, alors, surtout toi.
Ouais, exactement.
Surtout toi, ça c'est
non,
vrai.
Non, mais je te jure, je me retrouve non, question, à défendre LFI parce que tout le monde est tellement à plat ventre devant l'extrême droite que ça en devient ridicule.
Ouais, exactement.
Donc c'est vraiment dur quand tu vois en réalité où t'es plutôt nuancé.
Tu
n'es
pas obligé de défendre LFI, tu peux critiquer le RN sans défendre LFI.
Non, parce que c'est les seuls encore qui tiennent à deux secondes la barre. Donc excuse-moi.
Allez, les LFI, c'est les seuls à venir
à
moi qui suis française moyenne, qui travaille, etc. Moi, je suis désolée, le programme d'LFI me plaît pas beaucoup. Hein.
Mais vous le connaissez au moins. Attendez, non mais sans rigoler. Moi, je l'ai lu. Je peux vous garantir que le programme d'LFI, moi, il me plaisait beaucoup. Après, bon,
justement, c'est ça. Quand un cheminot dit ça.
Vous voyez, ce matin, vous parliez des impôts, il y a un moment donné, ça suffit. Moi, mon mari qui travaille, on est dans les classes moyennes, entre guillemets, supérieures. Je veux dire, on parle de me taxer davantage.
Regardez, Émilie, c'est tout simple, vous venez de le dire en plus. Regardez, le prochain budget, il n'est pas du tout éléphiste, il est fait par des gens de droite, d'extrême droite et tout, et puis là, votre mari, vous êtes encore plus payé d'impôts. Donc en fait, regardez bien.
C'est la gauche qui a validé ce budget.
Ah, c'est quelle gauche qui a validé le budget? Je crois pas que ce soit éléphiste.
Non, il n'est pas éléphiste. Gauche, ah bah
parce qu'il
n'y
avait pas
gauche,
assez d'impôts.
Il
voulait taxer Zucman. Enfin, et pour tous les auditeurs, réjouissons-nous que LFI soit en chute libre et qu'on n'ait pas
ça
Mélenchon.
C'est dans ton pays, c'est dans ton rêve.
On va continuer d'en parler et on passera un coup de fil au sage de la politique française, Alain Duhamel. On veut savoir ce qu'il pense de ça. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, la France insoumise va faire plus peur que le Rassemblement national aux prochaines élections? A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Bruno Poncet, notre cheminot, l'entrepreneur Emmanuel Devilliers et la coach de vie Joëlle de Gosséry, avec l'affaire Quentin et le jusqu'au boutisme de Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas lâcher Raphaël Arnaud, ce député LFI qui avait créé la Jeune Garde et rappelons-le, l'un de ses plus proches collaborateurs est aujourd'hui en prison, soupçonné d'avoir tabassé et peut-être tué Quentin puisqu'il y a des poursuites pour homicide volontaire et on se demande, Jean-Luc Mélenchon jusqu'au boutiste, ce qui fait dire à beaucoup de responsables politiques, aujourd'hui, on ne peut plus voter LFI. Il faut même mettre en place un cordon sanitaire autour des insoumis. On a même entendu un Bruno Retailleau nous dire que entre le LFI ou le RN, il choisissait plutôt le RN. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On en débat avec les grandes gueules et on va demander son avis à Alain Duhamel. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alain, c'est vrai que les choses évoluent avec cette affaire Quentin. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en train de devenir le nouveau Jean-Marie Le Pen?
Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que l'attitude que choisit Jean-Luc Mélenchon fait tout pour le diaboliser. Et que le comportement de Jordan Bardella fait tout pour se dédiaboliser. Ça, c'est des deux côtés, c'est parfaitement clair. Jean-Luc Mélenchon assume totalement ce qu'il est, ce qu'il veut être et ce que sont ceux qui l'entourent. Et inversement, Jordan Bardella, lui, se présente presque comme l'agneau qui vient de naître.
Donc il y a deux stratégies différentes, mais est-ce que celle de Jean-Luc Mélenchon peut être payante dans le contexte actuel avec cette affaire?
Alors, s'il s'agit de l'opinion publique en règle générale, évidemment non. S'il s'agit de ceux qui sont prêts à voter pour lui, je ne suis pas sûr que ça les décourage.
Mais est-ce que ça permet à Jean-Luc Mélenchon d'atteindre son but, si c'est celui-là, c'est-à-dire entrer à l'Élysée, s'il veut être président de la République?
Écoutez, entrer à l'Élysée, vous savez très bien que c'est au-delà de l'improbabilité.
Ah bon?
Bah oui.
Moi, je pensais qu'il était sincère quand il se présentait, qu'il pensait face à Bardella ou Marine Le Pen, il pouvait lui aussi espérer gagner.
Lui l'espère, lui le croit peut-être, lui en tout cas est prêt à mener une campagne qui serait d'ailleurs peut-être brillante parce qu'il a fait des très bonnes campagnes présidentielles. Donc tout ça, est dans sa tête à lui, c'est tout à fait possible. dans la réalité politique, ça me paraît extrêmement improbable.
Joël Dagossiri.
Oui, mais Monsieur Duhamel, j'ai une petite question concernant le député Raphaël Arnaud. Est-ce que vous pensez que le soutien de Jean-Luc Mélenchon, c'est un soutien stratégique sur le plan politique ou c'est juste de la loyauté, j'allais dire presque amicale?
Oh, moi, ma thèse, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est comme le pape. C'est-à-dire qu'il a dans sa tête le dogme de l'infaillibilité. Et donc, à partir du moment où c'est un député dont il a accepté l'investiture, il faut se le rappeler, à partir de ce moment-là, il va de soi que c'est un député sans peur et sans reproche.
Il ne peut pas se remettre en question, en fait. Emmanuel de Villiers.
Exactement, exactement comme le pape avec certains cardinaux contestables.
Alors, comme précisément on est en contact avec le souverain pontife de la politique sous la Ve République, une question tout en subtilité. Est-ce que, sans être dans le mauvais goût, les derniers événements qui vont précipiter quand même un tassement probable des intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, est-ce que ces événements sont une bonne nouvelle pour le Rassemblement National ou plutôt une mauvaise nouvelle? Je pense pour ma part, en apparence, c'est une bonne nouvelle.
On parle de la mort d'un homme quand même.
Ça renforce.
On parle de la mort d'un homme, une bonne nouvelle, la mort d'un homme.
Oui, okay. On parle de politique, on a le droit d'en parler.
Oui, c'est vrai, la mort d'un homme.
En apparence, c'est une bonne nouvelle, mais c'est peut-être une mauvaise nouvelle, puisque la disparition de Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle laisse place à un autre candidat, pourquoi pas vraisemblablement au centre droit, et donc toujours avec cette polarité de second tour, la difficulté pour le Rassemblement National de passer la majorité. Qu'en pensez-vous?
Alors, je pense que c'est une hypothèse imaginable, mais avec un préalable absolu, qui est que, entre, d'une part, les Insoumis, et d'autre part, le Rassemblement National, il y ait une personnalité qui se détache et que les autres candidats potentiels acceptent de la soutenir. Est-ce qu'on en est là? Évidemment, pas du tout. Est-ce que ça peut se produire? Ça peut se produire, mais ça n'est pas du tout garanti. Il est probable qu'il y aura, évidemment, à gauche, un candidat communiste et un candidat, disons, socialiste ou social-démocrate. Mais y aura-t-il un seul candidat au centre et au centre-droit et à LR? Il peut très bien y en avoir trois ou quatre. Alors, s'il y en a un qui s'impose nettement aux autres, il peut arriver au second tour. S'il n'y en a pas un qui se détache, mais vraiment de façon irrésistible, à ce moment-là, l'hypothèse d'un second tour Mélenchon-Bardella est possible.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Bruno Poncet.
Moi, M. Duhamel, je voudrais vous demander, les municipales arrivant dans quelques jours, vous pensez réellement que en ce moment, c'est ce qui se passe pour la France insoumise va jouer dans le fait que certainement beaucoup de maires, pour se faire élire, vont avoir besoin des voix insoumises. Et à mon avis, vont quand même les draguer, et que ça soit même la droite par certains endroits. Je rappelle quand même que Borne et d'autres ont été élus grâce aux voix insoumises. Et moi, je pense réellement qu'on va vite oublier l'histoire de Quentin et pour aller vite, très vite, se faire élire avec les voix des insoumis.
Je pense que les candidats qui peuvent espérer des voix des insoumises continueront à l'espérer, mais je pense qu'ils seront plus retenu dans la quête de ses voix. Et qu'il n'y aura pas du tout de floraison d'affiches, etc., et de choses de ce genre, qui soient, que dans des discours, ils fassent attention de ne pas les brusquer ou les heurter. Ça, c'est probable et même quasiment certain. Mais qu'ils fassent appel ostensiblement à leur voix, je pense que ce qu'ils espérerait gagner d'un côté, il le perdrait mécaniquement de l'autre.
D'ailleurs, on voit bien que à la fois Marine Tondelier ou Olivier Forst, assez embêté avec cette histoire, on les entend assez peu en ce moment. On voit bien qu'ils sont gênés aux entournures.
Ils se hâtent de s'abstenir.
Voilà. Quand on les appelle pour les inviter, ils nous expliquent qu'ils sont en campagne. Ce qui compte, ce sont les municipales.
Bien sûr.
Merci Alain. Merci d'avoir été quelques minutes pour cet éclairage politique dans les grandes gueules. Bon week-end à Alain Duhamel. Ethan est avec nous au 32-16. Il nous appelle de Brest dans le Finistère. Bonjour Ethan.
Bonjour à vous, bonjour tout le monde.
Dites-moi Ethan, est-ce qu'il pleut encore aujourd'hui?
Oui, il pleut encore. On est encore en Bretagne, donc c'est la tradition, vous savez.
Ouais, enfin là, c'est dingue. On atteint des records quand même. Hein. Bon, on se pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la France insoumise fait plus peur que le RN?
Non, je ne pense pas, et je pense qu'il est important de rappeler, comme Mme Dagosséry l'a fait, que la France Insoumise est le dernier rempart contre le danger de l'extrême droite. Je rappelle que l'extrême droite, c'est l'assassinat de Jamel Benjabala, de Hicham Mirawi, de Clément Méric. C'est des projets d'attentats déjoués contre Jean-Luc Mélenchon et contre Medine. C'est même, personnellement, je tenais à le rappeler en tant que personne en situation de handicap, que c'est des menaces de mort proférées contre un député socialiste par un bloc d'extrême droite néo-nazi en faisant référence à un programme d'extermination néo-nazi.
Ouais.
Donc il y a un moment, alors peut-être que certains vont me dire que c'est pas lié au RN, et c'est vrai que c'est pas forcément des députés.
Non, mais c'est vrai que le RN a quand même évolué ces dernières années, faut le reconnaître.
Oui, ah bon, on l'a vu avec les candidats qui nous ont sortis.
Le terme de dédiabolisation, il veut dire certaines choses. Le problème, c'est que le RN y participe parce que il ne se désolidarise pas de ce genre de personnes. Et quand on vous demande, si vous demandez à des gens qui sont de l'Action française ou de ce genre de groupe-là, ils vont vous dire que le RN, c'est pas forcément une mauvaise option. Donc moi, je considère que quand tu parles d'un groupe en disant que ça pourrait être tes potes, c'est que tu les soutiens. Donc,
Ethan, reconnaissez.
En disant que l'islamophobie n'existe pas, que machin.
Non, mais reconnaissez, Ethan, que le Rassemblement National a voulu faire le ménage. Alors, peut-être pas complètement, mais quand même, ils ont écarté des candidats. Je rappellerai que Marine Le Pen a même viré son propre père, Jean-Marie Le Pen, ce qui était quand même assez inédit. Et qu'il y a une entreprise de dédiabolisation RN, alors peut-être en façade, peut-être l'admettre, mais de l'autre côté, au contraire, il y a une volonté, au contraire, d'être toujours plus dur, plus diabolique, en quelque sorte. Ces deux stratégies.
Je pense que la France Insoumise est victime d'une cabale politico-médiatique.
Ah bon ?
Oui, complètement.
Pardon, c'est pas nous qui avons inventé Raphaël Arnaud et la Jeune Garde.
Ça se traduit cette dernière semaine par des alertes à la bombe. Il y a un gars, il a claqué un salut nazi devant une permanence.
Oui. Non, mais ça, c'est inadmissible. Mais si, on en a parlé, rassurez-vous. Mais vous savez, les alertes à la bombe. Vous avez alerté à la bombe, beaucoup d'élus l'ont. Au moment de la réforme des retraites, ce sont les députés Renaissance qui étaient attaqués, etc. J'espère qu'à l'époque, les insoumis ont dénoncé aussi ces attaques. C'est-à-dire qu'ils les attaquent contre les permanences.
J'espère qu'on continuera à en parler quand c'est...
Bien sûr, dans tous les partis, c'est scandaleux.
Il y a des menaces de mort sur des militants depuis des jours, et ça, personne n'en parle.
Bien sûr.
Personne n'en parle.
Mais si, on en parle.
J'apporte mon soutien à tout le monde, Manuel Bompard, Clémence Guettet, tout le monde, je leur apporte mon soutien.
Vous-même, vous êtes militant, alors.
Contre l'extrême droite. Et que l'extrême droite veut la mort de tellement de gens qu'il faut faire rempart à l'extrême droite. Je suis désolé, il y a un moment, il faut arrêter de
faire rempart. On peut peut-être faire rempart au RN sans être insoumis aussi. Il y a pas que
en tout cas, tu veux pas être pour Taillon ni Darmanin, ils sont d'accord pour pas faire rempart à l'ORN.
Je suis la seule personne qui a battu Marine Le Pen au deuxième tour, c'est Emmanuel Macron. Donc je suis désolé, le rempart le plus efficace à Marine Le Pen ces dernières années, c'était pas Jean-Luc Mélenchon, c'était quand même Emmanuel Macron qui l'a battu deux fois. Il y a plein de coutures. Donc je veux bien qu'aujourd'hui Emmanuel Macron tout le monde le déteste, mais enfin on va faire un peu d'histoire politique. Le seul qui a empêché Marine Le Pen, donc le RN arrive au pouvoir puisque c'est ce qui inquiète, c'est Emmanuel Macron, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Moi j'ai l'impression au contraire, Jean-Luc Mélenchon il nourrit Marine Le Pen, contrairement à ce que vous dites. Je pense que c'est l'inverse. Non. C'est-à-dire que plus il y a un Jean-Luc Mélenchon, plus Marine Le Pen se frotte les mains.
Moi je pense qu'il faut être assez mou sur ses valeurs pour que, parce que Jean-Luc Mélenchon devient de plus en plus fou, entre guillemets, aller voter pour le RN. Il faut quand même être assez faible sur ses deux pieds.
Bon, en tout cas, on a posé la question, est-ce que LFI vous fait plus peur que le RN ? La question a été posée sur le compte X des Grandes Gueules, et on remercie Ethan d'avoir été avec nous au 32-16, et vous avez dit oui à 78,6%.